Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les amyloses cardiaques et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Thibaut Damy. Professeur Damy, bonjour.
Bonjour.
Professeur Damy, vous êtes cardiologue, professeur des universités et praticien hospitalier au sein du service de cardiologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Vous êtes également responsable du Centre de référence national des amyloses cardiaques et responsable de l'unité insuffisance cardiaque et cardiomyopathie du service de cardiologie. Alors, professeur Damy, ma première question s'adresse donc au responsable du Centre de référence des amyloses cardiaques. Comment s'organise la prise en charge de cette pathologie en France ?
Alors, je pense qu'on peut dire qu'elle s'organise de mieux en mieux. Il faut bien comprendre quand même que l'amylose cardiaque était une pathologie qui est complètement sous-estimée et puis que pendant des années, nous, les cardiologues, nous l'avons ignorée. Et donc, ce diagnostic de ces patients, grâce au déploiement des examens d'imagerie comme l'IRM cardiaque ou la scintigraphie osseuse, a permis vraiment de développer le diagnostic de ces patients. Donc, le diagnostic, généralement, il va être fait dans les cabinets en fait, des cardiologues, bien souvent, lorsqu'ils vont identifier ce qu'on appelle les red flags, des canaux carpiens ou autres, chez des patients qui ont des signes d'insuffisance cardiaque et qui sont principalement essoufflés et qui ont des anomalies électrocardiogrammes ou une hypertrophie cardiaque. Donc, c'est souvent des patients de plus de 60 ans. Et ces patients-là vont pouvoir après bénéficier d'examens de dépistage comme la scintigraphie ou l'IRM qui va amener au diagnostic. Les cardiologues de ville vont adresser généralement les patients à des centres experts qui ont développé en fait une prise en charge multidisciplinaire, puisque dans l'amylose cardiaque, pour gérer ces patients qui ont une amylose cardiaque, il faut en fait finalement aller au-delà de la cardiologie et pouvoir travailler avec des hématologues, des néphrologues, des neurologues, des gériatres, des rhumatologues pour pouvoir prendre en charge le patient dans sa globalité. Et lorsque l'on gère ces amyloses cardiaques, il faut à la fois bien sûr pouvoir identifier l'amylose cardiaque, identifier le type, c'est-à-dire quelle est l'amylose cardiaque que nous avons à faire. Et la première urgence, ça va être d'aller rechercher l'amylose AL, puisque là, si on ne met pas la chimiothérapie ou l'immunothérapie dans les quelques semaines, le patient risque de décéder. Et c'est donc tout le déroulé après des professionnels qui savent faire ces biopsies et les analyser qui vont permettre de faire ce diagnostic. Donc la prise en charge, c'est déjà un dépistage auprès des cardiologues. Donc quand vous avez un patient en tant que médecin généraliste qui a par exemple été opéré des canaux carpiens, qui a un canal lombaire étroit, qui a une surdité et qui est essoufflé, envoyez-le au cardiologue afin qu'il puisse faire un électrocardiogramme, une échographie. Ça va augmenter le niveau de suspicion et à ce moment-là, le cardiologue de ville va pouvoir faire un examen d'imagerie ou l'adresser directement à un centre expert. Les centres experts sont aussi importants. Donc, c'est souvent les centres de la filière cardiogène, qui est la filière d'expertise des cardiomyopathies, où là, on va pouvoir également réaliser aussi toute la partie génétique de cette maladie, puisque dans les trois formes d'amylose cardiaque les plus fréquentes, donc hématologique, AL ou à transthyrétine, il y a également dans les amyloses à transthyrétine des formes héréditaires. Et là, il faut faire une analyse génétique. Cette analyse génétique est généralement faite dans les centres de la filière cardiogène.
Alors, au cours de notre entretien, professeur Damy, on va s'intéresser plus particulièrement à l'amylose ATTR. Quels sont les principaux types de prise en charge de la composante cardiaque de cette amylose ATTR ?
Alors, c'est effectivement une très bonne question parce que pendant quasiment plus de 8 ans où on n'avait pas encore de traitement spécifique de l'amylose, la seule chose qu'on devait et qu'on a appris, c'est adapter la gestion cardiaque, en fait, du traitement cardiaque de ces patients. Et on se rend compte que le diagnostic est déjà très important pour pouvoir adapter ce traitement. Donc, dans l'insuffisance cardiaque, puisque ces patients avec des amyloses cardiaques sont souvent insuffisants cardiaques, on a des recommandations qui sont maintenant claires et sur lesquelles on travaille depuis plus d'une vingtaine d'années, où il faut mettre à ces patients souvent des traitements associant bêta-bloquants, inhibiteurs d'enzymes de conversion, anti-aldostérone et éventuellement des indications propres de pacemaker. Et ce que l'on s'est rendu compte, en fait, c'est que la plupart de ces médicaments sont délétères dans les amyloses cardiaques et vont donc aggraver les patients. Alors, pourquoi ils vont les aggraver ? Les amyloses cardiaques, pour qu'un patient avec une amylose cardiaque soit dans un état fonctionnel et un bon pronostic, il faut qu'il puisse avoir un débit cardiaque, donc que son cœur puisse éjecter. Et toute la problématique de l'amylose cardiaque, c'est que le cœur va s'épaissir avec l'infiltration, la cavité ventriculaire va diminuer du fait du niveau de l'infiltration amyloïde, le cœur va devenir également rigide comme de la pierre, et le volume d'éjection systolique, donc la quantité de sang qui est capable d'être éjectée à chaque systole, va diminuer du fait de cette hypertrophie et de cette rigidité. Et donc, le débit cardiaque, je vous le rappelle, est égal à la fréquence cardiaque fois ce volume d'éjection systolique. Et donc, la seule manière de maintenir un débit cardiaque correct, c'est de finalement tolérer une fréquence cardiaque élevée, voire de l'élever. Et donc, les traitements comme les bêta-bloquants, ça va être une catastrophe chez ces patients parce que d'une part, ça va diminuer la fréquence cardiaque et donc ça va aggraver et diminuer automatiquement dès la prise de la première gélule le débit cardiaque. Mais ça va avoir également des effets inotropes négatifs et dromotropes négatifs, c'est-à-dire l'altération de la conduction, et ça aggrave le risque de troubles de la conduction qui sont fréquents également de ces maladies. Donc, vous voyez, les bêta-bloquants sont délétères à la fois sur l'effet fréquence cardiaque, mais sur l'effet contractilité et sur l'effet aggravation des troubles de la conduction. Pour autant, c'est des médicaments qui sont essentiels, bien sûr, dans l'insuffisance cardiaque et qui ont démontré leur intérêt en termes de survie. Mais vous voyez que dans l'amylose, c'est l'opposé. Après, les autres médicaments, les IEC notamment, ou les bloqueurs des récepteurs AT1 dans angiotensine 2, eux, on ne sait pas trop si ça marche dans l'amylose. Il y a quelques études qui suggèrent que c'est plutôt délétère. Mais donc, vous voyez, on ne sait pas encore en tout cas si ça marche. Et les utiliser chez des patients qui ont des petites tensions, voire des dysautonomies vasculaires neurologiques, ça pose vraiment des problèmes parce qu'il y a un risque de chute et de chute tensionnelle importante. Donc, vous voyez, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, ça va être déjà, après, d'adapter les traitements. Alors, quels sont les traitements qu'on peut mettre? Eh bien, s'il y a des signes congestifs, c'est les diurétiques qui sont la clé de voûte, finalement, du traitement de l'insuffisance cardiaque de ces patients. Mais il va falloir adapter la bonne dose de diurétique. C'est l'anticoagulation qu'il va falloir discuter chez ces patients parce que ces patients sont à haut risque, en fait, de thrombus intracardiaque. Ils font beaucoup de thrombus intracardiaques à la fois dans le ventricule droit qui peut se compliquer d'embolie pulmonaire, mais également dans le ventricule gauche qui peut donner des ischémies avec des accidents vasculaires cérébraux, des ischémies de membres ou d'organes. Et donc l'anticoagulation doit être discutée. C'est un travail bien sûr qui concerne le cardiologue, mais on peut anticoaguler des patients qui ont des amylos sévères, alors combien même ils sont encore en rythme sinusal. Voilà, donc c'est vraiment la prise en charge importante à comprendre, c'est que ce sont des patients en insuffisance cardiaque, mais que tous les traitements d'insuffisance cardiaque ne sont pas efficaces chez eux, voire même peuvent être délétères. Et c'est l'intérêt en fait de travailler avec des centres experts qui connaissent bien ces pathologies pour pouvoir mettre des traitements qui sont bénéfiques pour le patient et en tout cas ne pas mettre les traitements qui peuvent les aggraver. Et vous voyez, des fois, en voulant faire bien, on peut malheureusement faire mal chez ces patients.
Et au-delà des traitements pharmacologiques, quels autres types de prise en charge on peut proposer à ces patients?
Alors, du point de vue cardiologique, vous voyez qu'on a discuté, mais l'infiltration amyloïde va également altérer les tissus électriques et va entraîner à la fois des troubles rythmiques et des troubles conductifs. Donc, c'est des patients qui vont faire beaucoup de flutters, de fibrillations atriales, de troubles du rythme à l'étage atrial du fait de l'infiltration. Et donc, on peut tout à fait leur proposer des ablations de flutters. Donc, on fait des petites interventions pour couper les circuits lorsqu'il y en a. Pour la fibrillation atriale, les ablations ont malheureusement, bien sûr, beaucoup moins de réussite. Et puis, quand le patient tolère mal une arythmie, on peut être amené à faire ce qu'on appelle des chocs électriques, des cardioversions. Pour traiter les troubles conductifs, et ben là, bien sûr, on a des matériels comme les pacemakers, les resynchronisateurs. Et chez certains patients, il y a même des indications du fait d'un risque de mort subite plus important par trouble du rythme ventriculaire à mettre des défibrillateurs. Et on va les surveiller en fait sur ces troubles conductifs pour décider du bon moment de mettre ces appareillages. Pourquoi on va les surveiller? Parce que l'infiltration amyloïde, il faut bien comprendre du point de vue physiopathologique, est quand même un phénomène qui est dynamique. C'est-à-dire que les fibrilles, elles poussent et elles continuent de se multiplier. Elles s'allongent. Une fois qu'elles s'allongent, elles se coupent. Donc, c'est un peu l'histoire de l'échiquier de Cessa du grain de riz. Je vous laisse regarder sur Internet, mais globalement, vous doublez le nombre de grains de riz à chaque case et à la fin, vous trouvez de l'échiquier un nombre très important. C'est ce qui se passe dans l'amylose. À un moment, on est dans un processus en fait, de pousse des fibrilles et c'est un processus qui est exponentiel. Et toute la difficulté que l'on a, c'est de savoir où est le patient dans cette courbe exponentielle. Est-ce qu'il en est au début encore dans une zone plate ou est-ce qu'il est dans une zone extensive de la multiplication des fibrilles? Et ça, c'est ce qui va nous indiquer le risque en fait, d'évolutivité de la maladie, à la fois sur le plan d'insuffisance cardiaque, mais également sur le plan conductif. Donc, ce que font les cardiologues et ce qu'on fait, c'est qu'on surveille le patient, bien sûr, sur son rythme, à savoir s'il est bien en rythme sinusal ou pas. Et on va surveiller également ses espaces en fait, de conduction, que sont l'espace PR et le QRS, pour voir s'il s'allonge. Voilà. Et donc, quand ils s'allongent et qu'on a une dynamique, hein, ou quand ils sont déjà très longs de base avec des trous conductifs, des blocs trifasciculaires, on ne va pas attendre qu'il y ait un évêtement conductif pour mettre le pacemaker, on va l'implanter en prévention primaire. Alors pourquoi il ne faut pas attendre? C'est que souvent, effectivement, ces troubles ne se traduisent pas forcément par une mort subite, ça peut se traduire par une syncope, une pause ou un malaise, où le patient, vous voyez, il y a un phénomène d'échappement et le patient va battre à 30 par minute. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, ces patients sont très dépendants de leur fréquence cardiaque. Et donc un patient avec une amylose cardiaque à 30 par minute, et en fait, tout simplement, il peut lui en mourir alors qu'un autre patient n'en mourrait pas. Parce que 30 par minute, c'est beaucoup trop lent pour un cœur qui est infiltré par l'amylose. Vous voyez l'importance de bien discuter du bon timing, du bon moment pour mettre ces matériels et surtout ne pas hésiter à les mettre en prévention primaire parce que la prévention secondaire, la maladie nous laisse souvent pas le temps de le faire parce que le patient est déjà parti.
Et à côté des traitements donc à visée purement cardiologique qu'on vient de voir, professeur Damy, quelle est la place des traitements de l'amylose ATTR en tant que tel dans la prise en charge de la composante cardiaque de cette maladie ?
Alors, c'est effectivement un point qui est capital puisque pendant plus maintenant de 12 ans que je m'occupe de ces patients avec des amyloses et pendant quasiment 8 ans, 9 ans de ma carrière, je n'avais pas de traitement à ma disposition pour ralentir la progression de la maladie, du moins pour les amyloses à transthyrétine. Et donc, j'ai vu ce que c'était que l'histoire naturelle de cette maladie, qui est une histoire naturelle qui évolue, comme je vous l'expliquais, assez rapidement, malheureusement, et de manière défavorable. Et dans l'histoire naturelle de la maladie, la survie de nos patients a une médiane de survie, hein, 50% des patients décédés le sont dans 3 ans lorsqu'ils ont une atteinte d'insuffisance cardiaque qui débute par un épisode d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est une maladie qui est extrêmement défavorable. Il y a des médicaments, donc maintenant, qui ont démontré leur intérêt. Et ces médicaments ont vraiment révolutionné la prise en charge. Et alors que je voyais mes patients s'aggraver de consultation en consultation jusqu'à malheureusement leur décès et d'être hospitalisés en permanence pour des compensations cardiaques, et on les voit tout à fait stabilisés par ces traitements. Alors, il y a un intérêt à les mettre très précocement, évidemment, parce que vous voyez, ils stoppent en fait l'arrivée de nouvelles fibrilles, mais ils ne vont pas retirer les fibrilles qui sont déjà déposées dans les organes, bien que c'est possible qu'il y ait un système de détertion endogène qui se remette en place. Mais en tout cas, ces médicaments, vous voyez, plus on va les mettre précocement dans le développement de la maladie, plus on a une chance en fait de ralentir et de stabiliser la situation. Et pour des patients très sévères, on est en train de démontrer que finalement, même eux en tirent bénéfice, mais on n'est plus dans un système de ralentissement, probablement parce qu'on est dans la courbe exponentielle, que dans un processus de stabilisation. Et en pratique, ce que je vois également, c'est que dans cette maladie qui est multisystémique, qui va toucher en fait beaucoup d'autres organes, comme on l'a vu, qui sert aussi de red flags, comme les canaux carpiens, les canaux lombaires, l'infiltration digestive, où on voit en fait une altération de nos patients dans un sens de fragilité, comme le disent les gériatres, c'est-à-dire d'une atteinte vraiment multisystémique de tous les organes et de les fonctions, avec tout s'installe au fur et à mesure, et grâce à ces médicaments, on voit que nos patients en fait gardent une qualité de vie. Donc ces médicaments ont complètement changé la donne dans l'avenir de nos patients et il faut vraiment leur en faire bénéficier le plus précocement possible, ce qui veut dire évidemment qu'il faut qu'on améliore encore le diagnostic pour les diagnostiquer bien sûr le plus tôt possible pour pouvoir leur faire bénéficier de ce traitement. Puis il y a d'autres médicaments qui arrivent, qui sont encore en cours d'évaluation. On n'a pas encore la preuve évidemment de leur efficacité dans les amyloses cardiaques à transthyrétine, mais on a des médicaments qui vont venir bloquer la production de transthyrétine, donc bien en amont même de la fabrication du tétramère, et on est aussi en train de travailler sur des anticorps anti-transthyrétine, dont l'objectif est de réactiver le système immunitaire pour retirer les dépôts au sein notamment des organes et du myocarde. Et donc là, vous voyez, on pourra peut-être même améliorer plus rapidement l'amélioration de nos patients. Donc, vous voyez, on va arriver probablement à terme dans des bithérapies, trithérapies ou des thérapies successives avec l'utilisation de l'immunothérapie, de stabilisation et de bloqueurs de la production de transthyrétine. Donc, il y a de l'avenir.
Très bien. Et pour conclure, professeur Damy, quel suivi actuellement proposez-vous ou recommandez-vous aux patients qui sont concernés ?
Alors, nos patients, évidemment, vous l'avez compris, c'est une maladie quand même qui est redoutable. Donc, ce qu'on conseille, en fait, c'est on est là vraiment pour les centres experts, pour aider les cardiologues et les généralistes à prendre en charge ces patients. Je pense que les centres experts ont vraiment un rôle pour pouvoir adresser et travailler donc d'une part sur toutes les atteintes extracardiaques de la maladie, puisque généralement donc dans nos centres experts, nous avons des spécialistes, rhumatologues qui connaissent bien l'amylose, des gériatres qui connaissent bien l'amylose, des hématologues, etc., des néphrologues. Donc on a des experts qui peuvent vraiment comprendre ce qu'il faut faire avec ces patients. Donc pour les atteintes extracardiaques, je pense que les centres experts ont un intérêt très clair. Ils ont un intérêt évident dans le diagnostic étiologique. Et puis on est là également pour aider les cardiologues à mieux comprendre cette maladie, parce que comme vous l'avez compris, c'est un traitement pour l'instant qui est très spécifique. Donc moi, je pense qu'un patient doit être vu au moins 2 fois, 1 fois par an dans un centre expert, et il faut, de façon à pouvoir discuter justement ces indications de pacemaker, d'anticoagulants, et de pouvoir guider le cardiologue, et il faut au moins qu'il voit son cardiologue de ville tous les 3 mois pour être sûr qu'il n'y ait pas une déstabilisation, une progression de la maladie, et qu'il y ait une survenue de troubles du rythme ou troubles conductifs, et le cardiologue a une place centrale. Le médecin généraliste va être évidemment le chef d'orchestre de tout ça. Et ça va devenir effectivement compliqué parce qu'il va y avoir des atteintes multiples, mais généralement, ce sont des patients âgés qui vont faire plein d'autres choses et plein d'autres événements qui ne sont pas en rapport avec l'amylose. Et avoir une bonne relation entre les médecins généralistes et les centres experts, ça permet de bien prendre en charge ces patients parce qu'ils sont souvent polypathologiques. Et nous, les centres experts, on n'a pas forcément toutes les compétences pour gérer toutes ces pathologies, mais on peut dire en fait ce qui est de l'amylose et ce qui n'est pas de l'amylose. Donc, je pense vraiment qu'en travaillant les professionnels main dans la main, en essayant de faire chacun en fonction de notre expertise, on peut vraiment améliorer le pronostic de ces patients et maintenir une qualité de vie, ce qui est bien sûr notre objectif à tous.
Eh bien, merci mille fois, professeur Damy, de nous avoir éclairé sur la prise en charge de l'amylose cardiaque à TTR. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur les amyloses cardiaques. À très vite.